crois que je l'entends assez nettement, ce bruit, moi aussi.
J'allais le dire.
Et on sait c'est quoi?
Restez groupés et préparez-vous au combat.
Mais...
c'est...
oui, Oliogorgon.
Le grand ver des profondeurs, en effet. Le titan longiforme était à nouveau soumis au commandement de mon centlaire, le marionnettiste, le perfide ubiquitaire, et invoqué par lui en ces lieux. Le lombric géant venait de percer le pavement de la vaste cave où évoluaient nos amis, et à présent à l'arrêt, se tenant féroce et en une posture dominante face à eux, le redoutable dévoreur de roches préparait sa charge suivante.
Écartez-vous, inconscient! Il vise le sol à vos pieds! Mais je ne saisis pas! Que fait-il?
Étonnamment, Oliogorgon n'avait pas semblé attaquer sciemment. En vérité, l'animal aveugle n'avait même pas remarqué Berlu et son groupe. Il s'était simplement enfoncé la tête la première dans le sol devant lui, pour s'y insinuer en entier, au terme de vigoureuses contorsions, avant de disparaître à nouveau sous l'écorce terrestre, en laissant derrière lui de ces larges galeries circulaires qui faisaient sa signature.
Quoi ? C'est tout ? C'était juste ça le plan de ce vieux fourbe pour nous éliminer ?
Cela dit, nos attaques n'ont pas eu d'effet. Il est résistant, hein, ce ver. Ne devrions-nous peut-être pas nous éloigner des fois qu'il reviendrait? Imaginez qu'à force de percer des trous dans le sol, ils finissent par faire s'effondrer le château sur nous.
Sachez que peu d'attaques peuvent contraindre un être capable de frôler le cœur du monde, j'en ai peur. Fort heureusement, je doute que cette créature revienne, car le démon n'a d'intérêt à détruire ce château pour le moment. Mais quelque chose cloche.
Moi je trouve qu'on reste sur notre lancée de ces derniers jours pour le coup.
Ce n'est pas ce que je veux dire. Mon centlaire est d'accoutumé trop porté sur le spectaculaire pour avoir pu prévoir de s'en tenir à si brève attaque. Soit nous nous sommes trouvés fortuitement au milieu d'un mouvement prévu d'emblée par lui, soit... ceci n'était qu'un avant-goût.
Ah ? Ben moi en tout cas, je suis vraiment tout foufou, hein, et je vais pas m'en cacher. Pour un mutant, c'est un honneur mais immense d'avoir pu croiser le grand Oliogorgon, et plus encore d'avoir eu la chance de l'affronter. Ha, purée, j'en reviens toujours pas.
C'est vrai qu'il fait partie de votre mythe fondateur?
Ouais, comme tu dis, ma petite Marianne. Ha, quand je vais raconter ça à tout le monde au temple, ça va vraiment me... Ah hein?
Ça va, Binocle?
Ah, c'est bizarre. J'ai reçu un coup dans mon dos et puis y a un genre de machin tout collant qui... Ah!
Binocle!
D'un coup sec, celui-ci avait été aspiré, s'éclipsant dans l'obscurité de la galerie laissée l'instant d'avant par l'entrée du ver géant. Et hébété, figé de stupeur, Berlu, Marianne et Colin s'en retrouvèrent inertes à fixer le trou béant.
Miséricorde, fuyons, retournons à l'escalier, vite, et ne respirez pas avant d'avoir franchi la porte.
Quoi?
Fuyez!
Oui, mes trépignants spectateurs, oui. Cette autre créature sortie de l'ombre n'était pas moins que la très redoutée Rainette Gorgon, l'imposant et toxique amphibien que nos amis avaient croisé sous terre 2 jours avant.
Vite, Marianne! Refermez la porte! Il ne faut surtout pas respirer ces effluves!
Ouf! C'est bon! Il ne pourra pas nous rejoindre! L'escalier est trop étroit!
Ne restons pas ici pour autant! Il faut poursuivre notre route!
Quoi? Mais... et Binocle?
Oui, pauvre R, sous les pas de ses amis qui s'éloignaient par-dessus l'humide et sombre cave, voilà que lui s'était trouvé piégé dans les viscères de sa hantise la plus viscérale, la grenouille géante, voleuse du 11e joyau de Jean Grunt.
Putain de galère, finir bouffé par une grenouille, tu parles d'une mort à la con?
Fidèle à lui-même, le démon Mont-Saint-Clair avait fait ses sujets des grands animaux légendaires, bien que simple d'esprit, pour servir sa cause. Et Binocle, presque entièrement paralysé par les phéromones semi-anesthésiantes de l'un d'eux, ne pouvait du reste que faire face à son destin funeste. Mais par chance pour le mutant digeste, il se trouva cependant qu'un peu de réconfort vint à poindre là où nul ne l'aurait cru voir naître.
Chaton Verin, t'es toujours vivant ? Mince, ça fait plaisir, vieux. Ouais, moi aussi. Désolé qu'on t'ait laissé, du coup, j'aurais pas cru qu'on pouvait survivre dans l'estomac d'une grenouille. hein? Un pari ultime, et le perdant sera le premier à être entièrement digéré. Bah, je veux pas te vexer, l'ami, mais t'es déjà bien entamé, hein? T'es pas mal rongé par l'acide par endroits, et puis t'as même plus tes oreilles. Du coup, moi, comme je viens d'arriver, c'est plutôt bien parti pour que je gagne, hein? Ouais, la fourrure protège. Si tu vas par là, j'en ai plein aussi, moi, de la fourrure. Allez, d'accord, je tiens le pari. Ah, bah écoute, j'ai plus d'or, mais regarde à mon poignet. J'ai fauché ça en douce dans l'armurerie tout à l'heure. Un superbe brassard d'archer en cuir ciselé. C'est de la haute qualité. Et je te le joue contre 10 pièces d'argent. Ok, ça marche alors. Je vais pouvoir me refaire tranquillement. Puis je n'aurai plus qu'à récupérer mon or. Et cette connasse de soufflade ne pourra pas dire que je suis mort en pigeon. Ça va bien la calmer.
Quittons sur ces ergotages gastriques, mes délectables audiolecteurs, pour revenir sur les membres du groupe encore mobiles. Car entre-temps, ceux-ci s'étaient rapprochés d'un peu de leur destination en parvenant à gagner le rez-de-chaussée du vaste et labyrinthique palais royal. Mais un cas de conscience pesait en parallèle sur l'esprit de nos amis suite aux sombres événements qu'ils venaient de vivre. Nous approchons. La salle du trône doit certainement se trouver à ce niveau et... Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Marianne?
Je ne peux pas continuer.
Hein?
Je réfléchissais à ce plan que vous suivez, à ces actions déjà établies, et qu'il faut faire se produire dans l'ordre pour que l'issue de notre mission se passe comme les dieux l'ont décidé.
Nous en avons déjà parlé, oui, et nous devons le faire, tu le sais bien.
D'accord, mais que dire de ce qui vient de se produire? Binocle s'est fait dévorer sous nos yeux, et ne parlons même pas de soufflade. J'ai bien compris au regard de Colin qu'elle n'avait pas survécu.
Marianne, je...
Dans quelle mesure était-ce prévu que nos amis meurent? Et vous avez pu valider un tel plan sans y chercher d'alternative? Ou alors vous allez me dire que c'était des accidents, que ce n'était pas organisé, que vous n'y êtes pour rien? Et dans ce cas-là, vers quoi nous dirigeons-nous tête baissée depuis des jours si finalement la situation vous échappe, hein?
Mon cœur, calme-toi.
C'est l'un ou l'autre. Ou vous saviez, ou vous n'aviez pas de vrai plan. Et quelle que soit la réponse, Monsieur Berlu... Chacune me terrifie.
J'aimerais beaucoup pouvoir vous l'expliquer à tous les deux. Oui, cela m'allégerait d'un fardeau insupportable de surcroît. Mais il est impératif que les instructions soient livrées en temps voulu et que les sacrifices qui devaient être faits et seront encore à faire arrivent au moment où ils prennent tout leur sens dans les enjeux vitaux que nous servons. Quant à savoir, Marianne, si je suis au courant de chaque chose ou dans le tâtonnement, ni l'un, ni l'autre, la réponse est souvent dans le compromis. Le plan de Rodalex est limpide, outre un facteur incertain, et je n'ai pas le droit d'interférer en signalant si nous avons déjà ou non commencé à en subir les effets.
Bien, d'accord. Je voulais juste être sûre.
Je tiens quand même à vous féliciter pour votre courage et pour votre abnégation dans cette affaire. Vous y avez été mêlés malgré vous, et il est admirable que vous y teniez vos rôles si loyalement.
Oui, bah, on sera surpayé à la fin au moins, hein.
Et sous les bienfaits d'un sourire, les pieds reprirent la marche jusqu'à mener nos trois messies à un vaste couloir parsemé de larges colonnes en pierre noire.
Eh hey, mais, minute, je reconnais ça.
Quoi donc?
Ça, là, cette tapisserie délavée qui recouvre ce long mur de pierre nue.
Encore un souvenir de cette fameuse enquête que vous aviez menée en ces lieux, Colin?
Oui, c'est cela. Et si je ne me trompe pas et que je bouge cette tenture, nous... Oups.
Ah, c'est bien d'avoir brûlé cette vieille tapisserie, elle était moche de toute façon. Bravo, mon chéri.
Heureusement qu'il n'y a pas d'autre objet inflammable à proximité.
Oui, désolé. Et j'en oublie vite que mon corps est recouvert de flammes, hein, surtout quand j'étais comme à l'instant plongé dans mes souvenirs d'avant ma transformation. Hein. Mais bon, je rejoins Marianne, et puis au moins, c'est dégagé maintenant.
Et cette tapisserie recouvrait ça, en fait? C'est ce que tu voulais vérifier?
Oui. Vous voyez cette vieille porte, là? Je m'en souviens comme si c'était il y a quelques épisodes. Elle mène à une crypte secrète sous terre.
Et est-ce là une crypte souterraine utile à notre mission?
Ah, En un sens, oui, mon bon monsieur l'enchanteur, car à partir d'ici, je me souviens très distinctement du chemin vers la salle du trône.
Au même instant, non loin de là...
Nous revoici, maîtresse. Nous revenons, oui, et avec une bonne nouvelle.
Rampant, suintant de soumission et le bout de son long nez léchant presque le sol marbré, s'approchait à présent le vieil archiviste, serviteur obligé de Marie-Gabrielle, qu'il s'en était venu retrouver. Oui, ô mes spectateurs perspicaces, nous sommes bien dans la fameuse salle du trône, salle où la dite femme possédée par le démon et n'endossant nulle tenue, siégeait à la place du roi, dominant enfin la ville qu'elle avait tant convoitée. Et assise là, la tête penchée en arrière et le regard révulsé, l'hôtesse de Mont-Saint-Clair liait alors en continu son esprit à ces milliers de pantins méphitiques afin de suivre au travers de leurs yeux l'avancée de ses conquêtes. Mais suite à l'irruption du vieux fonctionnaire, la diabolique dame s'accorda de toiser ce dernier en redirigeant sa tête et son regard vers lui avec une lenteur et une sévérité terrifiantes.
Nous avons rencontré des gêneurs dans les égouts, venus ici pour vous faire du mal. Mais nous les avons menés à la salle sous terre, celle où vous nous aviez défendu d'aller aujourd'hui, là où vous aviez dit qu'arriverait la grande grenouille pour vous aider à finir de nettoyer le château de ses occupants. Alors, nous avons mené les gêneurs à elle, et maintenant, ils sont morts. Avons-nous bien agi?
Est-ce donc le creux de mes jambes que tu feins ainsi de ne pas lorgner, misérable esclave?
Oh, non, maîtresse, nous n'oserions pas. Non, 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 non.
Eh bien, regarde-le donc se déployer et souffre d'admirer ce qui t'est hors de portée.
Oh, si belle maîtresse!
Et tout en repenchant progressivement sa tête en arrière, elle ajouta:
ne t'imagine pas me surprendre, obséquieux vermisseau. Tes intrus approchent.
Hein? Mais... Et la grande grenouille?
Elle a fait son œuvre, telle que je l'escomptais. Mais je veux la fille, et les deux humains restants s'emploient à la mener à moi, croyant qu'ils la sauveront. J'ai de surcroît une surprise pour l'un d'eux.
Alors nous...
Berlu, Marianne et Colin venaient de pénétrer dans cet ordre en la salle du trône. Le vieux fonctionnaire s'éloigna furtivement, tandis que nos trois amis s'approchaient à pas décidés jusqu'à mi-distance du fauteuil royal, où méditait leur adversaire, resté impassible.
Nous voici à nouveau face à face, Marie-Gabrielle.
À la sombre sorcière de baisser de nouveau lentement le regard vers qui lui faisait face, cette fois dans une itération silencieuse.
Je t'en conjure, pauvre enfant victime des circonstances, chasse le démon hors de ton esprit, refuse sa servitude et viens auprès de nous mettre fin à son règne et sauver ce monde où la vie resplendit.
Alors que Berlu parlait, Marianne affichait méfiance et concentration, restant à demi cachée derrière le mage blanc, tandis que Colin veillait à l'arrière, fixant avec attention les alentours, enflammé et à l'affût de toute embuscade qui aurait pu survenir alors. Et faisant le point, Marianne fronça les sourcils davantage lorsqu'il lui apparut que le visage de leur ennemi lui semblait familier, sans qu'elle n'arrivât pourtant à se le remémorer.
« Cette fillette n'est plus, je l'ai consumée. » Comme ce monde absurde le sera bientôt, lui aussi.
Nous t'en empêcherons. Tu es revenu en vain, mon Saint-Clair.
Elle n'a pas l'air si terrible, cette sombre meuf. Vous voulez que je la carbonise pour voir?
Il serait presque tentant d'accepter. Qui sait, ce démon est affaibli après tout.
J'ai déjà repris de mes fragments manquants. J'ai ingéré les cendres prisonnières du bijou que tu forgeas jadis. Et j'ai repris à ce vieil ermite cette parcelle de mon être qu'il avait captée par accident.
Hein, qui ça? Le vieux prédicateur?
J'ai dévoré son cœur, et lorsque j'en aurai fait de même avec celui de Marianne, je serai...
à nouveau entier, et l'esprit le plus puissant de l'univers. Nul ne se mettra en travers de ma destinée.
Et comment espères-tu réussir incomplet, alors que tu fus déjà vaincu dans ta plénitude d'autrefois ?
J'ai retrouvé et affûté ma conviction, d'où mes armées plus nombreuses que jamais. Et quant à l'autre fragment... surprise étonnante et délicieuse, hasard cosmique délectable, ce vieillard, ou son animal stupide qu'importe, a fait se muer une partie anodine de mon esprit en un pouvoir qui m'a rendu plus de service que tu n'as pu l'entrevoir, mortel.
Quoi ? C'était donc ça le paramètre inconnu de la simulation ? Avec le pouvoir du prophète, tu peux entrevoir le futur ?
Si naïf est ce cher Rodalex, et si imbu de lui, il a basé son calcul sur le schéma de mon esprit qu'il pensait déjà connaître, sans prendre en compte cette faculté nouvelle dont il pensait être seul à jouir. Et tout votre périple a été prévu et orienté par moi.
Qu'est-ce qu'il se passe là ?
Monstre ! Dans l'élan de son désarroi, le druide brandit un bras en avant en vue de lancer un sort d'attaque en direction de Marie-Gabrielle. Mais avant qu'il n'eût pu le faire, une lumineuse décharge d'énergie avait fendu les airs, venue d'un recoin obscur de la vaste salle, et, le frappant de plein fouet, lui fit éclater le bras qu'il tendait.
Oh ! Monsieur Berlet !
Oh ! Oh ! Tombé à genoux en serrant son moignon douloureux dans sa dernière main, et tandis que Marie-Gabrielle, toujours assise, affichait la bouche béante une expression de fausse surprise en masquant à peine son plaisir, Berlu se figea lorsqu'une voix s'approcha, émergeant d'où le coup était parti.
Nous qui déplorions la baisse de magie en notre monde, comment ne pas embrasser la recrudescence de ces derniers jours, mon cher disciple ?
Maître Proutlard ? Vous ? Ici ? Et lui, je le crame ou pas ? Dites-moi quoi faire, bon sang, c'est pas le moment d'être mystérieux !
D'un geste, Berlu demanda cordialement à Colin de ne pas intervenir.
J'ai ressenti de nombreux troubles cosmiques ces temps derniers. Et depuis les fléaux, depuis l'avènement de l'enfant possédé de Voisinia, plus rien n'est pareil. J'ai beau être âgé, je n'en reste pas moins clairvoyant. Il est évident que ce monde est révolu, Archibald. Aussi, pourquoi ne pas vivre sa fin avec lui, abréger ses souffrances, plutôt que de lâchement l'abandonner à l'agonie éternelle ? Ceci est d'ailleurs la volonté d'une puissance divine, après tout.
Ce démon n'est pas un dieu, Proutlard. Ce n'est qu'un esprit vagabond et opportuniste, un marionnettiste sadique. Et il est triste de voir qu'il a pu, sur vous aussi, déployer ses fils, ô mon maître de toujours.
Mon pauvre apprenti de jadis, n'admettras-tu pas que cette expérience est grisante ? N'avons-nous jamais été plus proches des dieux que nous le sommes aux côtés de l'immortel Mont-Saint-Clair ?
De fait, non !
Berlu se leva d'un bond et lança une décharge d'énergie vers son ancien mentor, qui la para à l'aide d'un sort de bouclier. Pivotant ensuite pour esquiver le second tir de l'enchanteur, le vieux maître décocha une arcane de paralysie qui foudroya notre ami.
Impossible !
Je fus moi-même l'enchanteur officiel du royaume lorsque régnait Minuit 6, et je participais à de nombreuses guerres, moi. J'eus ainsi à développer des sortilèges redoutables et que je suis seul à connaître.
Marianne demeurait tétanisée, et Colin, qui brûlait d'envie de s'interposer, se laissa pourtant être obligé par son engagement. Et Proutlard, quant à lui, s'était avancé au contact de son ancien élève.
Me tuer, mon maître, ne me fera pas disparaître. Vous n'arriverez qu'à exacerber mes capacités.
J'en doute, mais si je puis t'apporter une leçon ultime aussi profitable, alors bon vent !
Non !
Marianne, laisse-le, il sait ce qu'il...
Ah !
Oh merde ! Pardon, Marianne, j'ai...
Brûlé à l'épaule par la main lancée par Colin pour la retenir, et étourdi par la violence de la mort de son professeur, Marianne alla s'affaisser, le flanc pressé contre une colonne de pierre voisine.
Il était la seule famille que j'avais.
J'en ai assez.
Explosant de fureur, l'inquisiteur expulsa de toutes ses forces la fournaise qu'il avait prise au cœur. Il bombarda le vieux maître Proutlard et Marie-Gabrielle d'intenses jets de flammes, mais dont ceux-ci purent hélas se protéger sans difficulté, à l'aide de ses boucliers magiques pour l'un et du simple souffle pour l'autre.
Je n'y comprends plus rien.
Sanglotant, à genoux et appuyé contre la colonne juste à côté, Marianne ne la vit pas surgir dans son dos, cette main maigrichonne qui s'abattit brusquement sur sa nuque.
Ah, non ! Le collier ! Il l'a pris !
Quoi ?
Il est à nous à présent, et la belle dame n'a plus rien pour se défendre.
À cet instant précis, Marie-Gabrielle se mit debout d'un bond et fit s'envoler brusquement Marianne, laquelle, impuissante, muette et complètement raide, s'en retrouva flottant face à la conquérante et attirée lévitant jusqu'à portée de son bras. Le fonctionnaire félon, quant à lui, s'enfuyait en riant. Déboussolé, hésitant, Colin ne sut que faire. Puis, d'un éclair lucide, il comprit que seul le collier de fil enchanté pourrait délivrer à nouveau son aimé du démon, que c'était la seule façon de l'aider, et il s'encourut à la poursuite du fuyard famélique.
« Prends-moi ça immédiatement, ou je te fais frire !»«
Ça ne nous attrapera jamais !»
En parallèle, au sommet de l'estrade de marbre dominée par le trône, Marie-Gabrielle et Marianne venaient d'entrer en transe. Leurs regards s'étaient une fois encore mis à luire, respectivement de vert et de mauve. Et si d'ici nous ne pouvons assister qu'à l'immobilité conjointe des deux femmes, l'une debout et l'autre suspendue en l'air, il faut savoir qu'en vérité, leur esprit était ailleurs, alors que Marianne s'en retrouvait invitée de force par Mont-Saint-Clair dans les limbes de son mental tourmenté.
Ah, je sais que tu es là-dedans.
Mais revenons, si vous le voulez bien, sur Colin, qui, poussant une porte entrouverte, venait de rattraper le vieux fonctionnaire à l'intérieur d'une salle vide, poussiéreuse et gorgée d'une épaisse obscurité.
Ah, on n'y voit rien ici. Ah. Ah, mais on dirait bien que tu es prise au piège, hein ? Regarde-toi, là, tout misérable, collé contre le mur du fond de cette salle étroite, sans fenêtre, ni autre entrée que celle-ci, hein ?
Oh, oui, nous sommes faits. Venez reprendre le collier brillant. Nous n'en voulons plus, mais nous vous en implorons. Ne brûlez pas nos fesses.
À la grande surprise de Colin, le vieil homme se rendait, à présent accroupi et le nez à nouveau contre le sol. Le servile homme de main du démon tendait un bras bien droit vers lui pour lui offrir le bijou enchanté.
Bon, je viens. Mais jetez à l'œil, hein. Je trouve ce revirement un peu trop... surprenant.
Oh non, non, non. Il n'y a nulle sournoiserie au grand inquisiteur. Nous nous rendons. Et il sait bien que nous n'aimons pas la vilaine fille. Et ici, elle ne regarde pas. Alors que ça vienne le prendre.
Obnubilé par l'attention qu'il consacrait à détecter le moindre mouvement suspect de son captif, Colin n'en remarqua pas que le sol sur lequel il évoluait avait soudain changé de nature. Car oui, le sol fait de pierre jusque-là s'était vu devenir une suite de planches en bois rêche.
Hein ?
Oh, mais pourquoi ça s'arrête ?
Et merde, quelle plaie ce... Ah !
Tel un sou lancé au fond d'un puits, le cruel brûleur de derrière ne pourra plus se joindre à nous désormais.
Oui, mes attentifs admirateurs, cette salle était bien le local de l'oubliette adjacent à la salle du trône, fosse dans laquelle était, un an auparavant, tombé le meurtrier dénommé Penisio. Il avait chu là, se brisant de nombreux os une fois le fond atteint, avant d'y agoniser deux jours durant dans l'indifférence générale. Ce ne fut qu'une fois en décomposition que l'on fit recouvrir le trou pour masquer les odeurs qui en émanaient. Et Colin, le corps enflammé, brûlant malgré lui le bois sec avec aisance, avait détruit le fin couvercle de fortune de cet abîme, où il gisait à présent, sonné et étendu, au milieu des ossements de la défunte fille du régent. Marianne s'éveilla nue, flottant immobilisée en position fœtale dans une dimension cauchemardesque. Un monde vide, glacial et silencieux, sans sol ni nature ni matière, un horizon perpétuel de bancs de brume aux courbes aiguisées et aux couleurs improbables.
Ça y est, je suis morte.
Notre pauvre amie ne pouvait parler, tout juste penser ses phrases, tant elle se sentait harassée et malheureuse en cet instant. Mais son hôte en vint à lui répondre, faisant résonner sa voix en prenant forme auprès d'elle.
« Comment trouves-tu ? C'est ici que j'ai grandi de longues années durant, prisonnière avec le démon, sans rien sur le dos, à sa merci. Il me maintenait en vie pour me tourmenter. » Goûte donc.
Marianne sentit apparaître en sa bouche une matière nutritive au goût infect, incomparable avec les plus écœurants des aliments qu'elle n'avait jamais pu goûter. Et malgré toute sa volonté de lutter, elle fut obligée d'avaler ce repas offert par le démon.
Si ton vieil ami, le magicien, est si bienfaisant, comment a-t-il pu me condamner à cela ? T'en a-t-il seulement jamais parlé ? Et avait-il planifié que tu subisses le même sort aujourd'hui ?
Je ne sais pas.
Nul besoin de t'imposer tourments éternels pour défendre un monde qui t'a rejeté. Reconnais ma victoire, Marianne. Tu n'as qu'à lâcher prise et toutes tes souffrances disparaîtront. Aime-moi. Abandonne-moi ton amour, concentre-le pour gorger ton cœur de toute la magie que tu abrites. Et tu connaîtras la quiétude lorsque nous aurons balayé le chaos ensemble.
Non, vous voulez tout détruire!
Ces pantins des autres dieux, ce sont eux les perfides. Souviens-t'en, ils t'ont renié, menti et méprisé toute ta vie durant.
Excellent ce vin négligemment abandonné sur cette table à banquet là-bas. Ah, à la santé de ton trépas, mon disciple, et puisses-tu recouvrer enfin la raison dans l'au-delà ?
Je m'y rendrai en son temps, mon cher maître, mais j'ai encore affaire ici-bas.
Hein ? Mais quel est ce prodige ? Que signifie cette ventriloquie post-mortem ? Te serais-tu déjà changé en revenant au service du dieu Mont-Saint-Clair, Archibald ?
Inutile de tâter ma dépouille du pied, c'est en pur esprit que je me tiens en ces lieux.
Mais quel opiniâtre ! Ne te décideras-tu donc jamais à mourir pour de bon ?
Depuis que je péris la première fois, j'ai tout du long été en mission pour le dieu Rodalex. À présent, en tant que spectre de mage blanc et qu'esprit immatériel, je suis en lien avec tout le savoir cosmique.
Que me dis-tu ?
Je puis ainsi disposer de facultés nouvelles, au demeurant trop puissantes pour que nul être de chair ne sache les utiliser sans se désintégrer aussitôt.
Mais sans même venir à en user, ma seule désincarnation m'autorise à traverser vos boucliers pour vous attaquer au contact.
Quoi ? Mais...
Intangible et doué de capacités offertes par Rodalex, l'esprit de Berlu avait investi le corps de son ancien mentor. Usant de sa magie soutenue par le divin, feu notre cher druide trafiqua la nature de chacune des molécules du corps du sage Proutlar pour changer celui-ci presque instantanément en une statue d'étain.
Je suis navré, mon maître, mais tout ceci faisait partie du plan.
Oh la vache, quelle chute! Oh, rien de cassé, on dirait, mais... Oh, je dois avoir la moitié du corps fissuré, ça fait pas du bien. Bon, allez, faut qu'on se lève, là. Faut que je remonte au plus vite. Mais, merde, c'est super profond. Comment je vais pouvoir... Hein?
Je vous en parlais tout à l'heure, mon passionné public. Les nombreux os de Penisio gisaient en petit tas, là, au fond de ce puits vertical, et l'inquisiteur venait de les découvrir en en bousculant du pied malgré lui.
Intéressant. Fémur, tibia, humérus, la plupart rompus en deux. Eh, mais si je... Oui, je pourrais coincer le bout pointu de ces gros os brisés dans les espaces entre les pierres et me bricoler une échelle de fortune. Mais je dois faire vite.
Résolu à ne pas se laisser accabler par la situation, Colin suivit son idée et enchassa les morceaux de ses os, les plus solides, dans les creux entre les pierres, là où c'était possible.
Ah merde, faut que je fasse gaffe à ça encore une fois.
Alors que l'inquisiteur tenait fermement la cage thoracique d'utérine en vue d'en arracher les deux humérus, plusieurs côtes, rendues cassantes sous l'effet de la chaleur qu'il dégageait, s'étaient brisées sous sa poigne en nombre de petits morceaux calcinés.
Il va falloir que je retienne mon souffle. C'est la seule façon d'atténuer le feu qui m'entoure. Sinon, je n'atteindrai jamais la surface.
Au risque de s'éteindre, Colin s'exécuta et n'inspira plus. Il se mit à escalader la raide paroi de l'oubliette, déchaussant quand possible les os coincés sous ses pieds pour les replacer plus en hauteur. Il ne manqua pas en sus d'utiliser les quelques reliefs de pierre qui purent à l'occasion servir de prise viable auxquelles s'accrocher. Le corps de notre ami en souffrance paraissait à présent grisâtre, et les vives flammes rouges qui normalement nimbaient sa silhouette peinaient alors à dégager une vague lueur jaune pâle et translucide.
Allez.
Il y était arrivé, le corps engourdi, le cerveau comme comprimé et au bord de l'évanouissement, alors que le feu en lui avait presque failli se dissiper, et tout en s'efforçant d'ignorer les impulsions d'intense douleur que lui envoyait son corps, Colin avait de justesse pu regagner la surface. Affalé sur le ventre, finissant de se hisser hors de la fosse, il reprit péniblement son souffle et se remit d'aplomb, se rappelant qu'il fallait d'urgence repartir aux trousses du vieux chapardeur. Et ainsi, sur le départ, alors qu'il jeta machinalement un dernier regard vers le trou de l'oubliette derrière lui, Colin fut soudain figé de stupeur.
Quoi, mais t'es encore là, toi ?
Le vieux fonctionnaire n'avait pas fui, mes auditeurs, non ? Assis en boule, face au mur au fond de la salle obscure, il sanglotait. Et en s'approchant, l'inquisiteur remarqua une chose encore plus surprenante.
Mais tu portes à ton cou le collier de Marianne ?
Oui, je me rappelle l'avoir juste enfilé en signe de triomphe et puis tout est devenu différent.
Oui, c'est évident, cet objet a le pouvoir de neutraliser l'emprise de Mont-Saint-Clair sur qui le porte.
Depuis que cette fillette a pris d'assaut Voisinia il y a longtemps, je ne m'étais jamais vraiment remis, comme si une part de mon esprit était toujours restée polluée par cette entité. Porter ce bijou m'a fait renouer avec une liberté que je croyais n'être plus qu'un songe lointain, inatteignable.
Je comprends, monsieur, mais...
Oui, tenez, prenez-le, et tant pis pour moi. Je comprends à présent que ce mal ne doive pas s'étendre à tous.
Tu possèdes un grand potentiel en toi, Marianne, plus qu'aucun humain avant, et c'est cela qui terrifie les autres dieux. Que tu puisses détenir une part si importante de l'esprit créateur, mais la chair est trop faible, et seul moi serai à même d'utiliser cette force. Ainsi, en nous unissant, nous pourrons créer des mondes idéaux, sans souffrance, et tu en seras la reine.
Non, c'est faux! Vous tentez de m'appâter!
Marianne était à bout, Glacée, endolorie et si profondément fatiguée qu'elle avait la sensation d'avoir l'arrière des yeux secs. Néanmoins, elle s'efforça de les ouvrir, déplissant avec peine ses paupières qui semblaient lourdes et râpeuses pour dévisager l'apparition de Marie-Gabrielle qui lui faisait face. La jeune sorcière fut alors traversée par une sensation de déjà-vu qui raviva d'un coup son esprit.
Ce visage, je comprends à présent. Cette Marie-Gabrielle, elle semble plus jeune, mais elle est sœur Jeannine. Donc tu as toujours été là. C'est toi qui as dévasté ma vie depuis le début.
Mon sang clair apparut alors à Marianne sous sa forme véritable. À la fois nébuleuse et distincte, l'entité, grappe de sombres filaments magnétiques, grouillants, vaporeuses et intangibles, venait de perdre patience.
J'ai déjà dû renoncer au pouvoir de votre roi magicien. Je n'attendrai pas plus pour me gorger du tien, fût-ce dans sa non-entièreté, puisque tu te refuses à me l'offrir de ton gré. Je te tarirai malgré tout des parcelles de moi que tu abrites, et serai à nouveau entier. Mon âge est enfin venu.
Les tentacules énergétiques de Mont-Saint-Clair se déployèrent vers Marianne, ce qui se traduisit en temps réel dans la salle du trône par une main de Marie-Gabrielle, une nouvelle fois tendue en direction du cœur de sa victime. Mais ses mouvements furent interrompus.
Je suis douée de magie. Je puis modeler les flux cosmiques invisibles. Je puis agir contre toi, démon. Tes promesses et tes intimidations me l'avaient fait oublier. Mais à présent, tout est clair en moi. Cet endroit, cette dimension spectrale n'est qu'illusion à mon esprit et je ne m'y trouve pas vraiment. Mais elle a été ta prison et tu as commis l'erreur de t'y projeter toi-même. Je vais t'y laisser en fermant la porte derrière moi.
Tu ne peux faire se confondre songe et réalité, jeune fille. Je suis maître de cette illusion.
Pas si je reparamètre ton algorithme de conviction pour te persuader du contraire. Je comprends enfin les structures complexes que j'ai lues dans le livre relié du fil argenté et qui m'ont envahi ensuite. Je vois nettement les lignes de code magique qui composent cette fonction en toi. Changeons cela.
Impossible.
Le regard de Marianne vint à s'illuminer de blanc. Elle retrouva force et se recouvrit le corps. Déployant de nombreux rays aveuglants et puisant dans ses immenses ressources magiques, notre amie pénétra dans l'esprit du démon. Elle traça parmi l'ADN énergétique de son adversaire de nouveaux liens ainsi que des détours contraignants. Aussitôt, Mont-Saint-Clair en fut certain d'être à nouveau pris au piège dans la dimension spectrale. Il paniqua, s'épouvanta, et plus encore, car cet esprit malfaisant, qui faisait l'unanimosité de tous, semblait être comme physiquement piégé, compacté à l'intérieur du vide d'une jolie paire cubique, générée par son seul subconscient, lequel donnait ainsi forme à la plus vive cause d'exaspération du démon. Les barrières de la tangibilité. Hélas, encore novice dans la pratique d'une magie de si haut niveau, Marianne avait fait une erreur de calcul. Car si l'emprisonnement de Mont-Saint-Clair dans une conviction virtuelle avait parfaitement fonctionné, cela rendait hélas en son esprit la véracité de cette projection dans son souvenir de la dimension spectrale, d'autant plus irréfutable.
J'espérais que le piégé le ferait m'oublier et qu'une sortie quelconque de cette illusion allait se dessiner pour moi. Et au lieu de ça, je suis prise au piège avec lui et...
Marianne!
Cola? Mais... Le collier! Tu l'as retrouvé et remis à mon cou!
Oui, je suis heureux qu'il ne fût pas trop tard. Cela dit, ça n'a pas été facile de faire tout ça sans te brûler, et parce que tu l'évitais assez haut. Hein. J'ai dû escalader une statue bizarre pour t'atteindre, et le métal mou dont elle est faite fondait sous moi en plus. Enfin bref, tu es là, c'est tout ce qui compte.
Mais qu'arrive-t-il à sombre meuf? Elle reste là, debout et figée, avec un bras tendu, les yeux dans le vide et une expression de terreur sur le visage, on dirait. Tu lui as fait manger de ta cuisine pour la détraquer comme ça, ou...
Ta gueule. Non, j'ai piégé le démon, mais je ne sais pas combien de temps la boucle va pouvoir tenir. C'est un esprit puissant, il va bien finir par trouver une parade, il faudrait vraiment
Marianne,
que...
Marianne, Colin, vous avez réussi. Mieux encore qu'il ne le fût entrevu.
Monsieur Berlu, c'est bien vous?
Mais où êtes-vous? J'entends votre voix, mais...
Je demeure en tant que spectre, ne vous formalisez pas.
Vous n'êtes pas un leurre de mon sang clair, au moins?
Non, et je crains que l'ultime consigne dont je vais vous faire part à tous deux ne puisse vous en laisser douter.
Comment ça, quelle consigne?
Tu as su admirablement berner le démon, Marianne, mais en effet, la perturbation que tu as créée parmi les fonctions qui composent sa volonté est lentement désagrégée. La conviction de mon sang clair tend à retourner un peu plus vers son état naturel à chaque itération de ta boucle.
Quel délai avons-nous?
Bien que toujours figé, l'esprit parasite s'exprima au travers de son hôte.
Bien joué, mes vaines espérances.
Marianne, si une empreinte persistante de mon sang clair demeure en Marie-Gabrielle, l'essence même de son existence est en ton sein. Si ton cœur était percé par le fil d'argent, cela l'atteindrait directement et l'anéantirait, le réduisant au néant, tout comme son emprise encore vivace sur cette pauvre femme, par effet de lien. Et ainsi, notre ennemi serait entièrement et à jamais effacé de l'univers.
Je dois donc me sacrifier ?
Plus encore que tu ne l'imagines, mon enfant, car ta naissance est elle-même liée à l'avènement du démon, et tu seras entraîné dans sa disparition. Ce monde que nous connaissons, lui, reprendra son cours à un instant passé. Il poursuivra le chemin qu'il aurait dû prendre, et j'en suis malheureux, Marianne, mais il s'agira d'un monde où tu n'auras jamais existé et ne naîtras point.
Je suis donc bien une anomalie, alors ?
Non, Marianne, tu es un équilibre, profondément bon et empli de grâce, né en réponse à un déséquilibre sauvage qui avait perturbé notre univers. Bien que désintégré, l'esprit créateur a laissé derrière lui à son œuvre une voie pour qu'elle se sauve elle-même, et tu es venu de cela.
Foutaise, l'artisan n'est plus. Mais moi, je demeure, je me répare et approche. Rien n'y changera.
Donc, en gros, il faudrait faire du fil argenté une arme et...
Et percer le cœur de Marianne. Forger ce fil de métal est la tâche qui t'incombe, Colin. Et j'en suis réellement peiné. Mais je t'en conjure, éloigne-toi rapidement après ton geste, mon garçon. Sans cela, si tu restes à portée, tu seras également aspiré dans le tourbillon cosmique qui découlera de cet anéantissement. Allez, ne traînez pas.
N'y a-t-il pas un autre moyen? Ne pouvons-nous pas, rétablir le démon et puis le percer, lui?
Non, je comprends. Il faudrait aussi que je meure pour cela, et puis la matière ne le blessera pas.
Hâtez-vous, vous dis-je. Du reste, ma mission ici est à présent révolue. Ce fut une grande joie de combattre auprès de vous. J'aurais tant aimé que nos souvenirs puissent perdurer.
Adieu, monsieur Berlu. Vous avez été comme un père pour moi.
Merci, Marianne. Je t'ai senti exceptionnelle sitôt que je t'ai rencontrée, et ce sentiment n'a jamais fléchi, ma plus brillante élève. Même si la seule. Adieu, mes chers amis. Et que ce démon reçoive, avant de s'éteindre, les bons vœux de la résistance que nous promîmes de lui transmettre.
Merde, mais c'est sadique comme plan. On te contraint au suicide et moi à t'y aider.
Ça n'est rien, Colin. Je pense qu'il valait mieux que ce soit toi qui m'accompagne dans ce geste. Nous aurons pu ainsi jusqu'au bout profiter de notre temps ensemble.
Colin sourit, tâchant d'accueillir l'élan de positivité que lui tendait son aimé. Marianne, radieuse d'une confiance paisible, ôta le brillant collier métallique de son cou pour le tendre à son plus intime allié. L'inquisiteur plia l'épais fil en trois et se pencha pour le déposer au creux d'un joint strié entre deux dalles de marbre du sol à leurs pieds. Il apposa ensuite sa main brûlante contre l'objet et, y concentrant une chaleur intense, il fit fondre ainsi le métal qui s'étala pour former une courte pointe biscornue. Colin retira sa main. Puis, pour accélérer le durcissement de l'argent divin, Marianne lança vers la dague de fortune un léger sort de gel.
À la caserne.
Puis, elle ramassa l'objet, tenant une extrémité entre ses doigts et plaçant l'autre contre sa poitrine.
Non, 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 non!
Il va falloir que tu cours vite. Je ne veux pas que tu disparaisses à jamais, toi aussi.
Non. Tu sais, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Marianne. Je ne vois pas comment je pourrais reprendre ma morne vie d'avant dans une autre réalité où je ne te connaîtrai jamais. Et puis tu sais, de toute façon, vu mon parcours, je crois que le monde s'est remis de ma disparition avant déjà que je naisse.
Alors pousse la lame en m'enlaçant.
Mais je vais te brûler.
De sa main libre, Marianne attrapa la nuque de Colin et l'attira contre elle. Il déploya ses bras pour enlacer Marianne et la serrer fort, et la lame fit son œuvre. Marianne sentait les flammes de Colin dévorer sa chair, ses cheveux, ses vêtements. Mais en fait de douleur, elle ne ressentait là que la chaleur douce et tendre d'une étreinte passionnée. Le cœur percé de Marianne se mit à émettre une puissante lumière blanche, à l'eau qui se déploya, englobant toute l'immense salle en sa clarté tourbillonnante. Nos deux amants, ainsi que le commandant diabolique en Marie-Gabrielle, s'effacèrent. Le temps se figea, et tout le royaume, et le monde qui le portait, et l'espace qui en dessinait les nuits et les jours, tout fut happé et restauré par l'immense clarté divine et les forces hallucinérantes qui s'y confondaient. Et l'équilibre ainsi, enfin, fut rétabli.
Épilogue de l'histoire!
Bel organe, mec!
Merci!
Par un beau et clair matin, le fermier Samuel s'éveilla dans son grand lit. Il se leva et s'habilla, enfilant en se faisant sa salopette en chanvre, parce que oui, en définitive, le chanvre peut aussi servir à créer du textile, c'est juste une autre variété que celui qui se fume, j'avais donc bel et bien raison l'autre fois. Et bref, il enfila donc sa putain de salopette de merde qu'il avait commandée chez Trois Suisses, il grignota rapidement une patate ou deux pour le petit déjeuner, puis il se saisit de son râteau avant de sortir de sa demeure pour aller cultiver ses terres. Depuis le seuil, Samuel contempla les étendues labourables qui entouraient sa ferme, scrutant les alentours avec beaucoup d'attention. Et ce matin-là, ce qu'il vit, lui fit très plaisir, oui, car les dites terres se trouvaient être couvertes de très très nombreuses pousses de carottes, luxuriantes et touffues, soulignant de par le fait que chacune d'elles était le pinacle d'un légume aux dimensions généreuses et à la chair tant sucrée que juteuse. Nassila, la magnifique épouse de notre ami fermier, se trouvait déjà sur place et salua son conjoint. La dame était sortie peu avant pour inspecter leur champ, ceci en compagnie de leur sociable et fidèle âne domestique, un animal évidemment, vous vous en doutez, incapable de toute forme de langage articulé. Là-dessus, Samuel réajusta sa salopette le long de son corps svelte et musclé, puis, gai et souriant, s'en alla rejoindre son aimé. Oui, mes adorés auditeurs, les choses furent très différentes en ce jour que nous pensions bien connaître, hein, et qui est ici présenté dans une version un chouïa alternative. Et en parallèle d'ailleurs, bien d'autres choses différentes s'y produisaient, et pour ne citer que quelques exemples. Frédéric le bûcheron ne fut pas la veille distrait par une magnifique baigneuse et put travailler tout à fait normalement, avec l'aide de son frère Yvan qui n'avait d'ailleurs pas perdu ses bras.
Ouais.
Les deux frangins abattirent ce faisant un splendide sapin chénien qui écrasa le brigand à l'aide qui venait à passer pile à ce moment-là et qui s'en retrouva sous le poids du tronc avec tous les os brisés. Comme quoi il y a quand même certaines choses qui changent pas. Et plus tard, le bien nommé chasseur Charles Piton trouva là le brigand blessé, abandonné par les bûcherons qui avaient eu un peu les chocottes et qui s'étaient barrés. Bref, bonne poire. Charles emmena le blessé en ville où la milice qui vint à le croiser lui remit une récompense pour la courageuse capture d'un criminel recherché. Cette bonne surprise fit s'aiguiller Charles Piton vers une reconversion professionnelle et il devint ainsi un respecté chasseur de primes, métier dans lequel il excella, étant donné sa propension naturelle à tirer sur les gens. Et il devint ainsi très riche, au bonheur de son épouse qui le dorlota. Le bon roi client premier ne rencontra pas Gertrude, car il avait un jour croisé la jeune bergère Suzy, venue au château pour vendre de la laine. Le souverain l'aima et l'épousa, offrant ainsi à son royaume une reine tendre et gentille. Notre cher client entreprit néanmoins de poursuivre les projets de campagne militaire lancés par feu son père Gaston XVII. La guerre eut donc lieu et il la perdit. Ainsi, après capitulation, notre cher royaume se fit confisquer un peu de son territoire au nord et au sud. Et il est à noter que cela lui conféra par le fait un contour plus en forme de poire et qui... vu sur une carte et dès lors renforcé par le dessin de la large et ronde montagne au centre du pays, lui donnait un peu la forme de ce qui pourrait être perçu comme un nichon, ce qui contenta toutes les parties pour le coup.
Ah ben oui, hein, parce qu'au fond, la forme du pays a changé pour un mieux finalement, donc j'ai plus ou moins atteint mes objectifs en fait.
Mouchard, lui, ne quitta pas la foire et s'éclata à rouler tout le monde en activant les trucages sous la caravane de la voyante Giselda, laquelle n'avait pas eu d'enfant pour l'aider. Il n'y eut jamais de sœur Jeannine, car la petite Marie-Gabrielle poursuivit sa scolarité tout à fait normalement. Le vieux fonctionnaire put, de son côté, s'épanouir dans sa carrière à l'hôtel de ville de Voisignat. Très étonnamment, la jeune utérine Viragouine est finie en couple avec la fillette très très moche qu'elle rencontra au hasard d'un marché en la capitale. Il se dit que la culotte fut en fait, et de très loin, plutôt portée par la fillette que par utérine finalement.
Binocle et Soufflade devinrent les assistants attitrés de leur maître Carlus Ravier.
Bénévolement, mais ça nous fait un CV.
Nos bons Kevin et Gontran demeurèrent, eux, amis et confrères prospères, dans le funérarium dont ils avaient hérité.
Ouais, t'es pas vrai, Gontran ?
Eh ouais !
Et le druide Berlu, quant à lui, fonda toujours son école de magie, mais cette fois avec l'argent gagné à long terme, à force de pratiquer normalement son activité. Il eut de nombreux élèves, car une grande quantité de magie était disponible pour les nouveau-nés à cette époque, et le bon maître Proutelard vint même à donner quelques conférences sur place, très appréciées d'ailleurs.
Je vais vous enseigner comment réussir un suprême de potage à la carotte avec, tenez-vous bien, des pâtes alphabet avec des accents.
Oui, le temps avait été relancé dans cet univers et l'ombre de Mont-Saint-Clair ne poignit jamais, cela grâce au sacrifice de Marianne et Colin qui avaient accepté de disparaître également. Ainsi, notre cher royaume lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus vraiment l'Antiquité, et qui a un sol propice à la poussée des carottes, put-il connaître un destin plus favorable. Enfin, seulement avec tout ce foutoir, un léger détail fut oublié, même par Rodalex. Voyez-vous, la singularité atmosphérique qui était née de l'enfermement de Mont-Saint-Clair dans le manuscrit nommé La Porte près de Voisignat, en plus de toutes ces particularités que vous connaissez, avait aussi pour elle d'influer sur le magnétisme de la planète de notre cher royaume en question, ce qui en diminuait très légèrement la gravité. Et de fait, cette singularité non incluse dans cette itération temporelle, une comète qui devait passer par là 32 années plus tard et qui aurait sinon, grâce à cela, loupé de très peu la dite planète, s'encastra ici en plein dedans et tout le monde mourut dans la panique, une atmosphère rendue toxique et de violents torrents de lave. Comme quoi, il n'y a rien à faire, hein. L'univers est une machinerie si complexe que nulle solution bénéfique ne peut être éternelle. Hein.
Et voilà, mes petits bouchons, vous savez tout. Et c'est ici que s'achève cette longue suite d'aventures. Et voilà, si je devais vraiment ajouter une dernière chose pour conclure, comme un genre de final morality of a tale, si j'osais user de ce patois d'outre-manche, et compte tenu de l'aboutissement de cette merveilleuse saga, dont la finalité nous renvoie à un commencement alternatif, je pense, en toute connaissance de cause et par soupèsement judicieux de la trame et de la sous-jacence post-créative, que écoutez... J'ai pas mal hésité durant toutes ces années de production de la série, mais maintenant que j'en ai vu la fin, je trouve que les histoires sans début, c'est une super idée de titre en fait.